L'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Claude Rouanet de Secours catholique Caritas et Irénée Dombué de la Fédération des associations des Burkinabés de France. Et pourquoi je les ai invités aujourd'hui ? Parce que il y a quelques semaines, il y a eu un sommet du G5 à Pau qui réunissait les représentants du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Tchad et de la Mauritanie. Vous avez depuis longtemps des engagements au Burkina.
Oui, bonjour, Jean-Claude Rouanet du Secours catholique. Oui, depuis 2012, nous avons créé un partenariat avec la province de Kaya. Kaya, qui est à une centaine de kilomètres au plein nord de Ouagadougou. Et nous avons renouvelé ce partenariat en 2016. Alors l'OCADES, c'est l'Organisation catholique pour la solidarité, qui est l'équivalent du Secours catholique en France. Voilà. Et effectivement, en ce moment... comme je le dis, comme c'est une province qui est au centre nord du Burkina Faso, c'est elle qui est le plus en limite.
En première ligne, on peut dire,
tout ce qui se... Tout ce qui descend du Mali et de toutes les attaques terroristes qui, depuis maintenant trois ans, ont fait de cette région une région d'insécurité.
Oui, c'est la troisième année qui commence, parce que les vraies attaques ont commencé vraiment en janvier 2018, hein, que le Burkina donc souffre, cette population souffre de cette insécurité dont on n'arrive pas à endiguer, un fléau qu'on n'arrive pas à endiguer. Mais le Burkina n'est pas le seul, puisque Madeleine, comme tu l'as si bien cité, il y a quatre autres pays qui sont aussi confrontés à cette guerre sans fin avec des conséquences innommables. Et donc, c'est pour ça que vous avez fait référence au sommet de Pau récemment, oui. Où les gens ont dit que Macron a convoqué ces sujets pour qu'ils s'expliquent par rapport à quoi ? Par rapport à ce sentiment anti-français qui se développe dans les pays en question, sur les réseaux sociaux en tout cas, sentiment anti-français lié aux réactions des populations qui, à vrai dire, ne comprennent pas pourquoi la France, malgré ses moyens technologiques, n'arrive pas à s'engager davantage et à les aider à endiguer cette attaque du terroriste.
Alors bien sûr, Irénée, en tant que Burkinabé installé à Montpellier depuis longtemps, tu as déjà œuvré pas mal pour faire connaître le Burkina Faso et ton pays d'origine.
C'est vrai,
avec Madeleine, lequel tu gardes beaucoup de liens.
Oui, je garde des liens. Donc, comme tu disais tout à l'heure, avant qu'on ne commence, avec une association Sarah, on travaille pour mon village d'origine, bien sûr, avec le lycée Jules Guesde, on a des liens avec un lycée Ouagadougou. Et là, en l'occurrence, tu m'as invité en tant que Burkinabé de façon large, parce que nous avons, au niveau de la communauté Burkinabé en général en France, donc regroupé toutes les associations, dans une fédération, enfin elle existait déjà, hein, mais on a lancé un appel de solidarité pour soutenir les familles des défunts, les familles des victimes de ce fléau. Et donc c'est à ce titre que je m'exprime ce matin.
Aujourd'hui, oui. Oui.
Il faudrait peut-être rappeler rapidement que le Burkina Faso est un pays d'une superficie qui est la moitié de la France, peuplé de 18 millions d'habitants, constitué un peu à la française d'ailleurs, hein, un peu sur le plan administratif, avec 13 régions administratives, 45 provinces. Une province, c'est ce que nous appelons chez nous un département, où cohabitent 60% de musulmans environ, 60-65, 20% de chrétiens et 20% d'animistes. Et comme disent les gens du pays, je pense qu'Irénée ne me contredira pas, bien que la majorité des Burkinabés soient avant tout des animistes. Voilà. Alors le Nord, que je connais un peu plus puisque j'y suis allé en 2014 et récemment au début 2019, là c'était décembre 2018. Le Nord est un climat sahélien avec une saison sèche qui malheureusement avec les problèmes que nous connaissons est de plus en plus longue. De 6 mois, ça a tendance à aller vers 7 mois, 8 mois.
Oui, le changement climatique se fait déjà sentir,
où l'agriculture est le seul moyen de subsistance, pratiquement. Et puis, le sud et l'ouest, que tu connais bien, toi, que moi je connais moins bien, est quand même beaucoup plus fertile. Et alors, le Secours catholique a noué un partenariat donc avec CAIA. Et c'est de cette région que je vous parlerai tout à l'heure. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, moi, c'est que la société burkinabé se fragmente. Lorsque j'y suis allé en 2014 dans ce pays qu'ils appellent le pays des hommes intègres, j'avais entendu que dans une même famille, on pouvait avoir un évêque et un imam qui étaient frères ou qui étaient cousins, que les responsables religieux des deux communautés participaient aux fêtes religieuses. Personne n'imaginait que la confiance se briserait comme malheureusement elle est brisée aujourd'hui. Imaginer que des Burkinabés fassent des choses pareilles à d'autres Burkinabés apparaissait inconcevable aux amis avec lesquels on reste encore en contact aujourd'hui là-bas.
Alors, Jean-Claude, j'espère que effectivement cette entente cordiale entre les différentes confréries religieuses n'est pas durablement entamée. Du moins, elle s'effrite, mais dans la majorité des cas, quand même, c'est beaucoup plus la crainte que la réalité. Il n'en demeure pas moins, effectivement, que certains sites religieux sont attaqués. Et donc, on se dit, est-ce que ces extrémistes musulmans, on s'en prend réellement qu'aux chrétiens ou autres. Donc ça donne ce sentiment de lutte interreligieuse, mais j'espère que c'est vraiment le fait d'extrémisme et que la majorité des croyants reste encore dans la solidarité. Voilà ce que je voulais dire.
À propos de je partage tout à fait. Oui. C'est vrai que ça donne un sentiment. Certains voudraient que ce soit une opération religieuse, mais ce n'est pas ça. Non, c'est peut-être parce qu'aussi, au niveau du gouvernement, c'est une région qui était un peu délaissée et que ce sont des gens qui sont dans des situations difficiles, démunis, etc., et qui se laissent influencer par justement ces hordes qui viennent plus du nord et qui peuvent plus facilement leur dire suivez-nous. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi.
Tout à fait. Tu as parlé des ressources, il y a quelque chose que je voulais souligner qui est nouveau au Burkina, c'est les gisements d'or à ciel ouvert qui attirent beaucoup de populations qui abandonnent leurs champs. Donc c'est vrai que quand on parle du Burkina, évidemment, cette situation d'insécurité est prégnante, mais il faut la corréler aussi à tout le reste. C'est-à-dire qu'en fait, bon, il y a des régions où les paysans allaient chercher l'or, donc la culture vivrière était impactée. Mmh. Et maintenant, il y a des régions où les gens ont peur et fuient leur village, leur champ. Donc ça vient amplifier quelque chose qui est déjà là et ça ne simplifie pas du tout la vie sociale des populations.
Oui, si on abandonne l'agriculture, comment se nourrir?
Mais oui, comme tu disais tout à l'heure, c'était la richesse principale et c'est tout à fait vrai.
Et comme lorsqu'il y a des attaques terroristes, ce sont dans les villages que ça se passe, les gens se réfugient dans les villes et les villages sont abandonnés.
Mmh. Et les champs aussi.
Mmh. Et effectivement, et donc nos amis de CAIA nous disaient vendredi dernier, à 30 km au nord, il y a 100 villages qui aujourd'hui ont été complètement désertés. Et pour justement, pour accentuer, parce que les gens qui viennent pour apeurer les populations, ils sont intelligents, ils s'attaquent aux moyens de santé, c'est-à-dire tous les centres de santé, les hôpitaux, ils dévalisent les stocks de médicaments et les gens n'ont plus rien. Donc il faut qu'ils se réfugient en ville et malheureusement, comme tu dis, les champs sont désertés, les troupeaux sont laissés à l'abandon. Et c'est une situation difficile.
Et ça crée une population de réfugiés.
Tout à fait. Ils se sont aussi beaucoup attaqués aux établissements scolaires. Donc il y a environ beaucoup de structures scolaires, environ 600 dans le nord et le centre nord qui sont fermés. Et donc environ 800 000 élèves qui sont déscolarisés. Et les enseignants ont dû fuir d'ailleurs, souvent.
Une situation vraiment très critique.
Oui, et il y a beaucoup, ils appellent ça des réfugiés internes. Il semblerait que dans le Burkina Faso, d'après ce que l'on lit dans les journaux, puisqu'il y a quand même quelques journaux français qui ont parlé de la situation. Il y a entre autres Le Figaro au mois de septembre, et puis La Croix qui a fait plusieurs articles là récemment, fin décembre et début janvier. Il y a 560 000 déplacés qui sont restés dans le Burkina, mais qui sont redescendus vers le sud parce que le nord n'est plus aujourd'hui une terre d'accueil.
Plus vivable.
Et c'est malheureusement trois groupes de terroristes qui opèrent au nord. Il y en a deux qui sont rattachés à Al-Qaïda. On dit que c'est essentiellement des Peuls qui les constituent. Et puis il y a le groupe État islamique au Grand Sahara, qui est donc en lien avec l'État islamique de Syrie ou
Libye.
Voilà. Et qui frappe plutôt l'est du pays. Et comme tu le disais, ils ciblent des responsables religieux et des lieux de culte, aussi bien chrétiens que musulmans. Ça je reconnais, c'est pas... Donc voilà, ils cherchent à déstabiliser un peuple qui était jusque-là...
Très uni.
Très uni, oui.
Alors vous avez apporté la musique
Voilà, alors moi la première musique que j'ai apportée s'appelle Wari, ça veut dire l'argent. Pourquoi j'ai choisi celle-là? Parce que justement, tout à l'heure, Jean-Claude disait qu'il s'adresse à des... Ils essaient de coaliser avec des populations en difficulté. Et l'argent est un puissant moyen pour attirer ceux qui sont dans le besoin pour les... C'est par ce moyen-là qu'ils recrutent des populations en difficulté pour élargir leurs forces. Et en fait, lorsque justement, tu disais il y avait un groupe où il y avait quelques peuls, et on a le sentiment que les Peuls sont très très majoritaires, et l'inconvénient de ça, c'est que ça va détruire un tissu social d'unité nationale, et ça c'est vraiment un point qui me tient beaucoup à cœur, qui est très grave, qu'il faut éviter. Donc la chanson dit l'argent c'est un miroir, mais c'est une source de division. Voilà.
Ah oui. Alors, nous parlons du Burkina Faso.
Oui.
Irénée. Quel est le sentiment actuellement de la population vis-à-vis justement des forces françaises qui sont installées avec l'opération Barkhane?
Alors, c'est vraiment une situation qui est assez, assez critique, en ce sens où beaucoup de gens, en tout cas à travers ce qui se dit dans les réseaux sociaux et même dans les discussions qu'on peut avoir. Moi, j'étais en vacances pendant un mois et demi là, et quelquefois, je manquais d'arguments pour répondre à cette sensation d'abandon ou du moins de cette impression que les Français, malgré la force Barkhane et tout ça, ne font rien pour éradiquer ce fléau. Et même il y a des gens qui pensent qu'il y a une complicité. Par exemple, certains me disent au Mali, il y a par exemple Kidal, qui est un fief des terroristes. Même les Maliens ne peuvent pas y aller. les Français, disent-ils, ont créé en fait une frontière entre l'État malien et l'État qui est visé par les terroristes. Et donc, le fait de faire cette partition, contribuer à cette partition, donne le sentiment aux populations qu'il y a une complicité. D'autre part, ils disent, ben, on voit passer des gens avec des motos pour aller faire des attaques, alors que les Français peuvent avoir des drones pour surveiller tout ça, que les services de renseignement européens, français en tout cas, ont les moyens de faire en sorte qu'il n'y ait pas toutes ces attaques-là. Et donc, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là et pourquoi ils ne font pas le maximum pour défendre ces populations qui sont pas seulement au Burkina Faso, au Mali, au Niger, tous ces pays du G5, le Tchad, etc. Et donc ça développe, c'est un climat qui est inquiétant. Je ne sais pas si la réunion récente à Pau, chez François Bayrou, avec Macron ayant invité d'autres dirigeants au Burkina Faso convoqués. Là, ça a été très très mal vécu la façon dont le président français a intimé l'ordre à ses collègues africains de venir à cette réunion-là. Ils ont vécu comme le chef qui demande à ses sujets de venir s'expliquer sur pourquoi est-ce qu'il se développe dans vos pays ce sentiment anti-français. Et le but c'était qu'il réaffirme qu'ils sont demandeurs et que les Français ne sont pas là pour... sont là à la demande des gouvernements africains. Je ne sais pas si la réunion et les déclarations qui ont suivi va apaiser durablement les populations. Mais ce qu'il y a, c'est que nous sommes là, Jean-Claude a parlé, donc Caritas, la solidarité avec les populations de cette région-là, pas seulement le Burkina, est quand même entamée, parce que si, d'abord, d'une part, le Burkina Faso, une bonne partie, un tiers du pays est sur liste rouge et le reste orange. Les amis qui sont en lien avec les associations, les populations, ne peuvent plus s'y rendre. Donc, les liens sont interrompus, enfin, ou en tout cas momentanément. Et en plus, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, un Français lambda se dit, ben, s'ils sont contre nous, s'ils sont contre les Français, pourquoi on va continuer à y aller? Mais je pense qu'il faut dépasser ce sentiment, parce qu'en fait, s'ils sont contre l'État et le gouvernement français, mais pas contre les populations, bien sûr, ça a toujours été ça. Les politiques menées par Paris de coopération ou de néocolonisation ne sont pas le fait des Français à la base, qui d'ailleurs, évidemment, manifestent leur solidarité à travers les différentes ONG. On dit que le Burkina Faso, c'est le pays avec le Mali où il y a beaucoup, beaucoup d'ONG. Donc, ces liens multiformes, c'est important pour nos populations. Et je pense qu'à l'heure actuelle, justement, où les difficultés sont encore aggravées par rapport à ces attaques, c'est important que les liens se maintiennent et que nos amis français puissent dépasser ce sentiment que je dirais par ailleurs compréhensible, parce que quand on avance certains arguments, ben on manque de réponse pour contrecarrer cette perception négative de l'action de la France dans la région.
Oui, en effet, il faut le dire, ces partenariats sont d'autant plus nécessaires.
Tout à fait.
Oui, puis ce ne sont pas des partenariats qu'avec des associations. Par exemple, nous, le projet que nous avons aujourd'hui d'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans 10 communes du Burkina Faso qui sont réparties, alors effectivement, à Kaya, avec le Secours catholique, c'est la plus au nord, mais il y en a à Ouagadougou, il y en a dans l'est, il y en a dans l'ouest. Il faut savoir que les financements sont... Nous avons aussi des partenaires qui sont, par exemple, l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Nous avons le Conseil départemental de l'Hérault, la région Occitanie, Montpellier-Méditerranée 3e. Donc,
oui, coopération décentralisée.
Voilà, il y a quand même des Français qui... Et je suis, vous en doutez, aujourd'hui, je suis en contact avec ces partenaires-là qui, au début de l'année, se sont fait quand même un peu de soucis quand ils ont entendu qu'il y avait autant de populations qui se rendaient sur Kaya. Eh bien, effectivement, aujourd'hui, dans deux villages, là, on est obligé de stopper les opérations parce que c'est plus possible. Mais il n'empêche que nos partenaires nous gardent leur confiance pour trouver alors d'autres villages qui sont qui sont plus en liberté et sur lesquels on peut continuer à travailler pour amener de l'eau, pour former les populations à l'entretien, etc. etc. Donc, je partage tout à fait. Il peut y avoir des problèmes au niveau des gouvernants, mais au niveau après, des populations et même, tu vois, des partenaires, aujourd'hui la confiance est totale. On ne nous a pas demandé, on ne nous a pas dit on stoppe de financer, vous arrêtez tout. Au contraire, on nous demande comment vous vous organisez pour. Voilà.
Oui, c'est très important
Le
dire. Oui.
Alors, c'est vrai que j'étais récemment à une réunion à Toulouse où il y avait d'Occitanie Coopération. Il y avait un atelier sur le Burkina où il y avait évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'associations qui se sont inscrites par rapport à la réflexion de qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, par rapport à on ne peut plus y aller, ce sentiment anti-français. Enfin, ça a donné lieu à une réflexion qui n'a pas débouché sur des trucs concrets, mais on a eu l'idée d'organiser un groupe pays pour continuer à réfléchir et voir comment on peut trouver des voies issues, un peu comme quand tu dis, Jean-Claude, que tes partenaires te demandent de trouver des voies contournées pour maintenir les liens. Pour parler toujours sur le... Alors, souvent on me dit, alors qu'est-ce qu'il fait le gouvernement burkinabé? Je dis, il fait ce qu'il peut. Il vient de lancer, on ne sait pas ce que ça va donner, en disant, on va recruter des volontaires pour aller sur le front. Le président a lancé ça il y a quelques mois. Aujourd'hui, on se demande quelle sera l'opérationnalisation de cette volonté politique, comment il va avoir les moyens et est-ce que ça va se mettre en place. Donc, on commence à se poser des questions. Et puis, le Burkina Faso est dans une phase préélectorale. Nous avons connu une situation de dictature depuis 2004 jusqu'en 2014. Et d'ailleurs, si j'en parle, c'est parce que l'insécurité actuelle est connotée par l'avènement de la démocratie. Beaucoup de gens pensent que les terroristes veulent déstabiliser le Burkina, le gouvernement actuel, parce que il a mis fin à leur connivence avec l'ancien régime. Avec l'ancien régime, il n'y avait pas d'attentat. Et il circulait à Ouagadougou. Ça, c'est avéré. Donc, on se demande si les élections vont pouvoir se faire. Comment on peut faire une campagne électorale? C'est en novembre 2020. On y est bientôt. Donc, ça pose des questions.
En effet, oui. Alors, on peut écouter une autre musique,
oui,
que tu as apportée?
Tout à fait. Alors, c'est un instrument c'est vraiment une musique de chez moi. C'est un instrument qui n'est pas très connu, s'appelle le tianhong. Et la femme qui chante, elle dit il faut éviter les tensions, il faut qu'on s'entraide. Voilà. Il faut être. Même si quelqu'un te blesse, il faut essayer de comprendre pourquoi et arriver à apaiser pour qu'il y ait la paix entre les uns et les autres. Alors, quelle est votre conclusion sur toute cette situation? Alors, moi, Jean-Claude, ce que je voulais dire, c'est que quand je suis en vacances, Alors que quand nous sommes en France ici, je parle de quand nous sommes en France parce que j'ai assisté à des réunions à Paris de cette fédération où au moins de l'incident, nous sommes alarmés, nous sommes catastrophés. Et j'ai trouvé qu'à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, que les gens vivaient normalement. Et chaque jour, je me disais, mais comment vous faites pour... Alors, ils me répondaient toujours, mais tu veux qu'on fasse comment? Si on se couche, c'est, on leur donne raison. Donc, j'étais admiratif de ce courage-là. Non pas qu'ils se désintéressent ou qu'ils ne prennent pas conscience de la gravité de la situation, mais je dirais qu'ils essaient de faire face et de continuer à vivre avec. Et donc, ce courage m'a beaucoup surpris. Et je pense que ça donne aussi des lueurs d'espoir. Ça montre un peuple qui n'est pas couché, hein, qui n'est pas couché face à l'adversité. Il faut dire que de temps en temps, on dit dans la presse que les forces de défense et de sécurité ont remporté des victoires sur les djihadistes et terroristes. Et ça met du baume au cœur dans les populations qui sont... Même quand... moi, je suis d'une région qui est encore un peu moins impactée, mais... Vous voyez, il y a eu un attentat sur une mine d'or à l'est. Mais évidemment, c'est des travailleurs. Les travailleurs, ils viennent de partout. Moi, j'ai une nièce qui était dans le Lot, alors que son village d'origine est loin. Donc, tout le monde est confronté à la situation. Un peu moins que ceux qui sont à Kaya, c'est vrai, parce qu'on n'a pas les réfugiés, on n'a pas les... Voilà. Mais on est tous concernés. J'avais une amie récemment au téléphone me dit, à Bobo-Dioulasso donc, qui me dit, quand je vais à la messe, j'ai peur. Oui, alors que c'est la ville loin, mais ça y est.
Bah, c'est sûr que... Enfin, on peut être aussi admiratif, hein, parce que je vois... comme nous disent notre partenaire, Kaya est assez calme, bien que, comme tu viennes de le dire, pour la messe de minuit, pour la première fois, d'abord la messe de Noël, excusez-moi. Au lieu de se passer à minuit comme d'habitude, elle s'est déroulée à 19h par crainte justement de ce qui pourrait arriver. Et pour la première fois, tous ceux qui sont rentrés à la messe ont été fouillés. Ça ne s'était jamais produit. Okay. Mais il n'empêche que les gens de Kaya gardent vraiment le moral et restent dans l'action. Actuellement, par exemple, il y a une mission italienne qui y séjourne. Il y a effectivement de l'ordre de 200 000 habitants aujourd'hui, enfin de 200 000 personnes à Kaya, alors que c'était une ville de 70 000. Et on peut dire qu'il y a eu une réaction. Enfin, que ferions-nous, nous, si on recevait comme ça des réfugiés internes qui viennent chez nous? Aujourd'hui, on crie.
Parce qu'il
y a quelques réfugiés qui arrivent de l'extérieur, et eux, c'est énorme. Et nos amis nous disaient, nous étions focalisés sur le développement, par exemple l'accès à l'eau, etc., la formation des populations pour l'entretien et tout. Et aujourd'hui, par l'actualité, on est obligé de se tourner vers l'humanitaire, vers le sanitaire, vers l'alimentaire. La population déplacée a été logée dans les écoles pendant l'été, parce que c'est là où il est arrivé le plus. Hein. Il en est arrivé 50 000 au mois de juillet, et puis 80 000 au mois de septembre. Et depuis que l'école a repris, parce que quand même l'école a repris, et bien qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récupéré des maisons, des locaux administratifs, des locaux qui étaient vides, pour loger les personnes. Les associations internationales avaient amené des tentes, mais les gens préfèrent construire des huttes. On les a aidés à construire des huttes comme ils ont l'habitude de vivre dans la brousse. Et puis, effectivement, quand même, la ville de Kaya est aidée par le programme alimentaire mondial, le PAM, qui amène de l'alimentaire. Comme c'était pas suffisant, nos amis de la Caritas Burkina ont demandé à Caritas Internationalis d'augmenter l'aide. Et donc, entre autres, le Secours catholique, qui fait partie de Caritas, a envoyé de l'argent là-bas. Alors, il faut savoir aussi qu'ils s'organisent correctement. Et à chaque réception d'aide, ce sont les plus démunis qui sont ciblés. Et pour que l'aide ne soit pas gaspillée, il faut aussi fournir le matériel de stockage, de cette nourriture et les ustensiles de cuisine indispensables. Par exemple, il va y avoir prochainement une foire aux ustensiles de cuisine, aux vêtements, aux couvertures, parce qu'on est en période d'hiver, par une distribution de bons d'achat, une distribution gratuite de bons d'achat pour éviter les pillages. C'est-à-dire, les gens vont aller avec
leurs bons.
Voilà, ils s'organisent. Par exemple, ils ont mis au point un transfert d'argent sur téléphone de façon à ce que les personnes puissent payer, mettons, une consultation auprès d'un médecin, une consultation de santé, ou pour acheter des ingrédients de base pour cuisiner, de l'huile, du sel. Nos amis là-bas sont astucieux et devant cela, ils ne crient pas comme nous, oulala, on est envahis. Ben non, ils font ce qu'il faut avec des astuces, que, vous voyez, le téléphone, etc., pour arriver à aider ces populations-là. Je trouve ça formidable.
Eh bien, donnez à nos auditeurs vos coordonnées pour qu'on puisse vous joindre.
Ben écoutez, moi ce que je propose, c'est que si des personnes veulent faire des dons au Secours catholique, ils peuvent envoyer un chèque au nom du Secours catholique en inscrivant Burkina Faso et l'adresser au 10 rue Ernest Michel, 34 960 Montpellier CEDEX 2, au nom du Secours catholique.
Alors nous, la Fédération des associations de Burkinabé, on a déjà fait une collecte qu'on a envoyée en septembre. Donc je pense que je ne lance pas un nouvel appel, mais tous ceux qui veulent aider, en passant par Jean-Claude et le Secours catholique, c'est tout à fait la même chose. Et en tout cas, merci encore de vos soutiens multiformes, oui, qui nous vont chaud au cœur, qui vont chaud au cœur aux populations qui sont en première ligne en difficulté.
Merci de votre soutien, effectivement.
Alors, merci à tous les deux de nous avoir renseignés sur tout ce qui se passe au Burkina Faso. Je termine avec le calendrier. Mercredi 22 janvier à 20h au Gazette Café 6 rue Leva, c'est une soirée discussion pour une transition agricole intelligente. Comment nourrir une population grâce à l'agroécologie ? Initiative locale, quelles sont les conditions pour un changement à grande échelle ? Et avec Patrick Caron, président du panel de haut niveau sur la sécurité alimentaire mondiale de l'ONU et président d'Agropolis International. Et puis, on entendra des témoignages de personnes d'organisations de la société civile, du Pays-Bas, d'Afrique du Sud, du Sénégal, du Maroc, de l'Inde, du Brésil, de l'Éthiopie, du Burkina Faso et aussi de Montpellier et ses environs. La discussion et les échanges libres autour d'un verre se feront avec Patrick Burger, président du CARI, qui est organisateur de la soirée. Également, donc, je rappelle que le mardi 28 janvier à 18h à l'espace Martin Luther King, une réunion à l'invitation de la FPS aux autres associations pour la rejoindre dans la préparation du programme 2020 Bethléem, capitale de la culture arabe 2020. Mmh. La ville de Montpellier étant jumelée avec Bethléem, cet événement doit être préparé par beaucoup d'associations. Ouais. Et puis aujourd'hui même, à 18h, à l'hôtel de ville de Montpellier, a lieu l'inauguration de l'exposition photographique « Peuples autochtones, aide ode à la nature » à partir des clichés et écrits de Christian Puech de l'association Témoins du bout du monde. Mardi, 21 janvier, donc demain, à l'amphi Philippe Lamour sur le campus de la Gaillarde à Montpellier, c'est la 11e édition du cycle de conférences « Les cultures sciences ». Où sont passés les insectes ? Avec Stéphane Foucard, spécialiste des questions environnementales au journal Le Monde. C'est une conférence organisée avec l'INRA Montpellier-Occitanie et la chaire UNESCO Alimentation du Monde. L'entrée est libre, mais il faut s'inscrire obligatoirement. Voilà. À bientôt, chers auditeurs.